Mais là, il y a un autre facteur humain qui est très difficile à contrôler, c'est qu'il y a de l'insécurité dans ces coins-là, et donc les gens ne voulaient pas laisser leurs fenêtres ouvertes la nuit. Donc on arrive par moments, non mais, alors, c'est un peu caricatural, parce qu'il y a aussi... Il y a aussi, en effet, des vrais progrès techniques. On parlait des systèmes de ventilation double flux. Il y a des pays plus avancés que nous. Hein. Moi, j'avais fait des interventions dans l'Est. Disons, en Allemagne, il suffit de franchir la frontière et vous trouvez des petites ventilations double flux de volume réduit qui permettent d'éviter de gérer des appartements anciens. Parce que le problème aussi de toutes ces technologies qui sont lourdes, c'est leur incidence. Quoi. La ventilation, c'est du tuyau. Les tuyaux, dans les bâtis anciens, il faut les faire passer. Déjà, avec les problèmes de traitement de l'eau, de l'électricité, du téléphone, de tous ces trucs-là, on en bave pas mal. Donc voilà, il faut avoir conscience de... Et alors moi, je suis ravi de ce que tu dis, parce que voilà, je pense aussi qu'il y a les éléments... il y a la technique qui peut tout, mais il y a aussi les recherches de basse technologie qui existent aussi dans l'habitat à haute performance énergétique. Hein, il n'y a pas que le high-tech, hein, il y a aussi le low-tech. Et moi, je pense qu'il faut faire attention, parce que la ventilation naturelle, on parle plus. Voilà, parce que ça, c'est complètement impensable. Alors, avoir une ventilation naturelle, vachement, c'est complètement pensable. Vous avez des opérations très, je pense, en Angleterre, vous avez des opérations très connues où les gens essaient de réfléchir là-dessus. Donc, moi, je pense, alors, ce serait, mais là, je crois qu'on donne l'éventail de la réflexion qu'on aimerait pouvoir mener avec vous. Bon, on pense qu'en étant pragmatique, en confrontant nos expériences, vous qui habitez, nous qui habitons aussi, parce qu'on habite aussi, et moi j'habite dans une maison ancienne, ce que savent faire les entreprises, ce que peuvent vendre les entreprises, parce que c'est un vrai problème aussi, parce que vous prenez les revues, alors on vous dit c'est formidable, la machine machin, et puis vous allez, vous ne la trouvez pas dans le commerce, ou vous ne trouvez pas l'artisan capable de l'installer intelligemment, ou vous n'avez pas la réponse à votre problème d'isolation, parce que le gars, une fois qu'il a passé sa fenêtre, il vous dit c'est comme ça, quoi, ma pauvre dame, vivez avec le bruit. Il y a peut-être moyen d'avancer de façon... oui, je suis d'accord, assez pondéré avec vive la technique, mais pas que la technique.
Oui, mais effectivement, il y a ce danger du tout technique, et puis il y a ce danger, effectivement, de mise en place d'une économie. On dit le développement durable, finalement, est-ce que ce ne serait pas une manière de masquer une volonté de fabriquer de la croissance artificiellement? Et effectivement, dans le cadre du programme Platant, le centre-ville de Bayonne, le secteur sauvegardé, une étude en la technique pour trouver des solutions pour améliorer ce qui se passe dans le quartier de Bayonne. Bayonne, c'est un quartier à colombage, pour être touché. Et l'étude a montré que l'isolation des parois était parfaitement inutile, n'avait pas besoin, et que le changement des menuiseries extérieures était dans la plupart des cas inutile. Ce qui va à l'encontre de tout ce qu'on a envie de faire empiriquement. On se dit, ben oui, on va isoler les murs et on va changer les fenêtres. À Bayonne, ça ne sert à rien. Seule chose qui est importante à Bayonne, c'est effectivement d'isoler les cages d'escalier, puisqu'elles étaient ouvertes en haut par des verrières, et d'isoler les toitures. Donc parfois, effectivement, mm-hmm. C'est pas la peine de dépenser.
Un petit trésor, ça.
Voilà, je me dis.
Est-ce que tu me dis déjà qu'il y a un peu sur Poitiers, on attend.
Ah, pardon, peut-être que l'on peut parler effectivement de Poitiers.
Oui, je peux parler de Poitiers parce que c'est dans le cadre de ce programme Battant, on avait fait une étude donc, sur Poitiers, qui est une étude, effectivement, comme vous le rappeliez, une étude sur les consommations réelles et non pas les études de logiciels. D'ailleurs, on travaillait avec un bureau d'études qui, au départ, nous avait sorti des tableaux avec des résultats complètement aberrants. On a pu vraiment vérifier les consommations réelles et ces résultats totalement théoriques qui ne fonctionnent pas. Cette étude-là, on pourra peut-être la présenter dans le cadre d'une prochaine réunion sur le sujet, parce qu'elle est assez intéressante. On avait pris effectivement une dizaine de typologies de ces principes qui a été fait aussi sur Bayonne et sur Nantes. A priori, il y a eu cette étude aussi, mais je la connais moins. On pourra la présenter parce que ça permet de voir qu'effectivement, le bâti ancien, avant même de faire quelque chose, il est déjà assez efficace. Et c'est important de le rappeler. Et puis ensuite, il y a toute une série de fiches travaux sur la façon d'isoler et d'améliorer toutes ces conditions-là. Alors après, ce que je voulais préciser quand même, c'est que ces études servent, même si le programme Battant n'est pas publié, ça sert puisqu'on connaît déjà pas mal de cahiers de recommandation qui ont été sortis sur les villes de Grenoble, de Paris aussi, et donc Poitiers l'a aussi sorti. Et on l'utilise dans les règlements de secteur sauvegardé, ça devient des orientations d'aménagement, c'est-à-dire des règles qui sont pas des règles binaires, mais bien de la recommandation, un peu plus poussée que la recommandation, puisque c'est bien réglementaire, mais avec pas mal de précisions sur les modalités, sur les façons de faire. Donc ça devient quand même applicable. Donc ça devient intéressant, et puis je pense qu'avec la réforme des AVAP et toute la logique de la nouvelle loi sur les AVAP, il y a des études qui commencent à se diffuser un peu partout. Je pense à Moissac notamment, où des études assez poussées ont été faites sur toute la performance énergétique de certains îlots, avec des réflexions. Il y a une réflexion aussi qu'on oublie, c'est toute l'échelle urbaine, c'est-à-dire le tissu urbain conditionne aussi beaucoup le confort d'un bâti. Il y a les questions d'ensoleillement, d'exposition au vent. Ça, c'est des choses qu'on a tendance à oublier parce qu'on réfléchit toujours entre quatre murs, à l'image ou à l'échelle de l'immeuble. Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment pousser et approfondir sur les études dès qu'on commence à raisonner à l'échelle d'une ville et justement profiter de ce type d'études d'urbanisme pour élargir un peu plus la réflexion et pour penser et pondérer un peu toutes ces théories qu'on a sur le bâti ancien.
Plus que pour poser une question, plutôt pour évoquer un point qui est en général une qualité du bâti ancien, c'est la notion d'inertie. Vous voyez, parce que ça joue certainement par rapport à tout ce qui est l'isolation thermique en particulier, mais j'ai remarqué que le concept d'inertie était souvent pas pris en considération par les bureaux d'études qui font des calculs justement sur l'isolation thermique à mettre en œuvre dans tel bâtiment ancien et tout ça, et pour l'isolation phonique d'ailleurs de la même manière, ils ne prennent pas en compte le concept d'inertie, alors que l'inertie, c'est une qualité des bâtiments anciens, principalement par les murs épais, par les planchers épais, et c'est une qualité au niveau du charme, du côté agréable, enfin en tout cas c'est une qualité, alors après à voir, mais c'est plutôt pour poser le problème, quoi, dans quelle mesure ça influence ce confort, en quelque sorte, ce confort des bâtiments anciens, que je pense que tout le monde en a l'expérience, mais est-ce que c'est mesurable, est-ce que c'est mesuré?
Alors, tout le monde sait ce qu'est l'inertie ou qu'est une notion. Bon. Non, mais en gros, c'est pour ça que je me permets d'en aller dessus. Parce que, bon, pour simplifier ce qu'on appelle l'inertie, c'est la capacité des matériaux à absorber ou de la chaleur ou de l'humidité aussi, ce qui n'est pas rien du tout. Parce que c'est une chose qu'on oublie, c'est que la régulation de l'humidité, surtout sur nos climats, parce que on parlait tout à l'heure, chaque région, alors on revient à des formes aussi de perception un peu plus fines. Hein. Quand on commence à étudier le bâti vernaculaire, on va appeler ça comme ça au traditionnel, on réalise que chaque région, chaque microclimat, chaque culture a ses façons de vivre, qu'il y a autant de variétés dans la façon d'habiter que dans la façon de se loger, de se nourrir, de se vêtir, que chaque territoire à ses pratiques ancestrales, ses habitudes de vie aussi. Il y a des choses qu'on tolère dans certaines régions, d'autres qu'on ne tolère pas dans d'autres régions. Les acclimatations aussi, le climat. Donc on arrive à des notions d'habité beaucoup plus subtiles, quoi. Que la norme machin truc qui dit qu'à Marseille, à Lille ou à Brest, le triple vitrage est certainement indispensable. Donc l'inertie, ces matériaux, les bâtiments anciens présentent aussi des qualités que nos matériaux modernes ne rendent pas toujours ou ne restituent pas toujours. Donc ce que parle le confrère, c'est inertie thermique. Tout le monde connaît ça. Vous rentrez dans une vieille maison, l'été il fait horriblement chaud dehors, il fait bon dans la maison. Voilà. L'inertie hydrique dans des climats très humides comme les nôtres, ça compte énormément. Vous mettez des matériaux anciens, des briques, du plâtre, des choses comme ça, ça va absorber de l'humidité de façon très très importante et ça va le restituer après. L'inertie thermique sur nos climats, c'est une notion extrêmement importante. On est dans des ciels, enfin c'est connu, on est en Bretagne, donc il pleut jamais plus de 3 fois par jour, et il y a du soleil au moins 5 fois dans chaque journée. Mais ça veut dire que dans une même heure, vous allez avoir des changements climatiques extrêmement importants. Vous allez avoir des nuages qui vont passer, vous allez avoir des effets de masque, vous allez avoir des moments froids, des moments ensoleillés. Un bâtiment qui a des matériaux qui accumulent de la chaleur, eh bien il va pondérer tous ces éléments. Vous avez 2 heures d'ensoleillement, le surplus de chaleur va être accumulé dans les murs, vous allez avoir des effets de masse parce que les nuages vont passer, ça va restituer doucement, et donc vous avez des bâtiments qui ont un cours thermique plus subtil, plus compliqué mais plus subtil que des bâtiments qui n'ont pas ces capacités, qui vont réagir de façon totalement immédiate aux variations climatiques. Donc c'est ça, je crois, que un petit peu que tu évoquais.
Oui, ouais. Thank you.
sol, en fait, qui fait une harmonie avec les saisons. Il y a vraiment quelque chose. Et aussi, bon, il y a cette dimension hypothermique et aussi au niveau du son, la qualité de l'isolation du son.
Bon, là, c'est pour décrire les qualités, simplement, elles sont immersives par ces qualités. La qualité de l'isolation phonique des murs anciens, des fois, est assez quand même. Enfin, c'est quelque chose, quoi, en fait. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est ça, c'est pareil, c'est pris en compte ou pas pris en compte.
On a aussi des exemples à Nantes qui sont quand même très connus, de l'exemple inverse. Avec les murs à simple paroi, qui sont quand même aussi une donnée du bâti à Nantes, des murs de tuffeau qui font 15 cm, et qui, eux, n'ont absolument pas d'inertie. Et c'est un sujet, par exemple, qui est très présent ici, qui est un peu le contre-exemple de ce que l'on pouvait faire à une époque, et pour lequel, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup avancé.
Oui, mais là, c'est parce qu'il s'agit de murs dégradants. Parce qu'un mur, il faut les murs de 20 cm, il a quand même une pas si mauvaise que ça, une inertie thermique et phonique, enfin, me semble-t-il.
Non, c'est pas une sorte de dégradation, mais le coefficient d'isolation.
Il agit très différemment, parce que vous avez carrément des failles, des trous, des fissures, et le bruit, le froid passe.
Mais on a quand même beaucoup d'exemples, enfin surtout des annexes sur Nantes, qui sont absolument inchauffables avec des simples parois. Enfin, il fait 2 degrés quand il fait moins 5, quoi. Enfin, ça fait partie, en fait, de des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas traitées sur la ville de Nantes, par exemple. Et donc, je crois que c'est aussi... Enfin, moi, je pense que si on a lancé ce débat-là, c'est aussi pour qu'on prenne en compte des spécificités. Et notre naissance a aussi cette vocation d'aiguillon pour que, de la même manière qu'on a réfléchi aux façades il y a 20 ans, on essaie de trouver des solutions pour ces spécificités du bâti que l'on retrouve quand même assez couramment sur Nantes et pour lequel aujourd'hui, il y a quelques blocages quand même.
Je voulais juste dire, quand vous parlez de moins 5 dehors et de 2 à l'intérieur, que le temps de passer de moins 5 à 2, enfin voilà, c'est le temps que ça passe à travers le mur, ça dure combien de temps? Parce qu'il y a aussi cette notion. Il y a des murs qui gardent la chaleur, et puis il y a des murs qui ne la gardent pas. Donc.
Non, mais là, on est sur des exemples de bâtiments qui n'ont pas un niveau de performance. Ce serait du parpaing, ce serait enfin, pas tout à fait pareil, parce que effectivement, là, c'est pas la même chose, mais quand vous avez 20 cm de tuffeau ou 15 cm de parpaing ou de briques, on n'est pas loin des mêmes choses. Aujourd'hui, en tous les cas, on ne se satisfait pas de ce genre de choses. Enfin, je crois que c'est...
Et puis, un petit peu en contrepoint de ce qu'il disait tout à l'heure, c'est vrai que les façons d'habiter et les façons de vivre ont énormément changé. Le fameux thème de l'ouverture des fenêtres, nous, on est confrontés, enfin, ça, c'est un truc qu'on voit... On a quand même de plus en plus de familles où les couples travaillent, partent le matin de bonne heure, rentrent le soir assez tard, donc ne ventilent pas parce qu'il n'y a personne qui reste pour ouvrir les fenêtres, des trucs comme ça, quoi. Et aussi, dans les façons de vivre, on est beaucoup plus statique qu'on l'était, vous êtes chez vous, vous avez moins d'activités. Les gens, enfin nous on voit ça parce qu'on fait aussi pas mal d'études d'urbanisme, quand on discute avec même à une génération ou deux générations antérieures, les gens étaient beaucoup plus dehors, la maison était un abri climatique, mais où à la limite on rentrait, on dormait, on se chauffait, vous aviez plus de moyens. Donc aujourd'hui, quand on est beaucoup dans les intérieurs, on s'y dépasse peu. On est devant l'écran de télévision ou devant l'écran d'informatique et des conditions climatiques qui étaient plus difficiles à accepter. Non, mais moi, je suis convaincu de ça. Hein. Je suis désolé, je suis complètement convaincu de ça. Hein. Je suis un patrimonial de ce point de vue-là, très sceptique. Le discours, nous, on fait des églises aussi. Les discours de la BEF qui consiste à dire « vous mettez un par-dessus et vous serez content », c'est rapide. On n'a pas dire ce qu'on veut. Les façons de vivre ont changé. L'habitude, la réaction au climat n'est pas la même. On n'est pas endurci à des conditions climatiques comme l'étaient nos parents et nos arrière-grands-parents. Et donc, de fait, là, je suis d'accord avec Gérard Desmondards, on est obligé de faire face à des bâtiments qui, pour d'un usage contemporain, sont totalement inacceptables, alors qu'ils étaient totalement tolérés, peut-être aussi par absence de choix, mais aussi par des façons de vivre qui étaient différentes. Alors moi, je suis d'accord. Nous, on fait... je suis très low technique, mais on fait aussi des horreurs absolues. On fait parfois des isolations pour l'extérieur sur des parois comme ça. On double pour l'intérieur. On essaie d'utiliser des techniques qui sont des techniques souvent extraits de l'architecture écologique, parce que c'est souvent intéressant du point de vue climatique, je trouve qu'ils sont plus fins. Mais on intervient, oui, on intervient. On ne peut pas non plus, à mon avis, se contenter de dire le bâti ancien, écologiquement, il est formidable, il est écologique à la base, etc. Ça, c'est un autre excès dans lequel je ne tomberai pas. La technique, je m'en méfie à l'excès, mais la mythification du bâti ancien qui aurait toutes les qualités parce qu'il est seulement ancien, j'y crois pas, surtout, je vous dis, je pense qu'il y a une énorme disparité de production. Énorme disparité de production.
J'aurais une petite remarque suite à ce que vous venez de nous exposer. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas de solution du fait, qu'il y a des spécificités par bâtiment, période, par région, etc. Et je constate finalement que un des freins à cette amélioration du confort en général dans le bâti ancien, c'est presque les normes dont vous parliez depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est pas parmi les messages à envoyer au ministère de l'Aménagement, est-ce qu'il n'y a pas quelque part, non pas la fin des normes, mais en tout cas plutôt passer à des tendances?
Mais c'est pas les panneaux
franchement. Inciter à l'amélioration de l'isolation phonique, l'isolation thermique, mais sans imposer des normes qui par moment peuvent être contre-productives finalement.
Oui, si c'est des contre. Enfin, là, c'est un débat qu'on lance parce que sûrement on peut avoir autant de positions, mais moi je suis d'accord, je pense que l'approche normative sur ce bâti-là est totalement inadaptée parce que par définition, ils n'ont pas été produits dans une approche normative. L'approche normative a des qualités. Mais c'est autre chose, quoi. Voilà, c'est pas adapté à ces gens-là. Il faudra accepter d'avoir des approches plus pragmatiques, plus empiriques, pondérées par la science, parce que je ne conteste pas l'intérêt des méthodes de calcul. Il faudra accepter de pondérer. Il faudra accepter que l'expérience peut équilibrer la norme, quoi. La norme, c'est le chiffre et la capacité à calculer. Je dis, le calcul est parfois caricatural parce que quand c'est pas calculé, ça n'existe pas. Le coût des menuiseries, c'est l'exemple type. Les effets de rayonnement dont on parle, les effets d'inertie, c'est très compliqué à calculer. Il y a des problèmes qu'ils font, mais c'est tellement compliqué qu'on vous dit, comme c'est tellement compliqué, on ne sait pas calculer. Donc, comme c'est pas calculé, on ne peut pas normer. Comme on ne peut pas normer, ça n'existe pas. Voilà. Moi, je crois qu'on est vraiment dans des champs. Il faut accepter qu'il y ait des approches différentes. On peut aimer le. Vivent dans des maisons très contemporaines, très normées, qui donnent des tas de gages de sécurité et de qualité, qu'à mon avis, alors là je suis un peu en nuance par rapport à mon camarade, on n'obtiendra jamais dans le bâti ancien, et on peut aussi trouver absolument insupportable de vivre dans ces machines qui ont des qualités de performance, mais aussi des tas d'inconvénients. Enfin, moi le courant d'air, j'adore ça par certains côtés, et puis je vous dis d'entendre du bruit, je trouve ça très très bien, de pouvoir contrôler de façon un peu empirique moi-même, intervenir, je me méfie de la VMC, voilà, bon, ça veut pas dire que j'ai raison, ça veut dire qu'après tout, je dois pouvoir vivre comme ça si j'en ai envie, sans qu'on m'empoisonne et qu'on m'impose de transformer cette maison que j'ai choisie parce qu'elle a d'autres qualités en un objet qu'elle ne pourra jamais être, quoi. Au risque de perdre l'essentiel de ce qui fait la qualité de ma petite maison, ce qui ne veut pas dire que je dis qu'il ne faut rien faire.
Non. Ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui le bâti neuf est quand même en train d'évoluer très très vite. Et je parle des hôtels, par exemple, je parle pas seulement du logement. La préoccupation que l'on avait, c'est de se dire s'il y a un écart qui se creuse entre un bâti neuf qui est en train d'évoluer très vite et un bâti ancien qui n'évolue pas, on va avoir un décalage. Et le risque, c'est de ne plus avoir d'occupation du bâti ancien. Et ça, on sait que la meilleure garantie du bâti ancien pour qu'on continue à l'entretenir, c'est qu'il soit occupé. Or, donc je crois qu'on ne peut pas on ne peut pas faire abstraction de cette évolution qui est importante. Par ailleurs, le problème de ventilation, c'est un peu annexe, mais ça n'est pas parce qu'on a une ventilation qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Mais quand on est dans des hôtels, par exemple, en plein hiver, etc., il faut aussi que le bâtiment soit performant, avec des gens qui tournent et qui n'ont pas forcément les réflexes. Même si on peut jouer sur les comportements d'utilisation du bâti, il y a un certain nombre de bâtiments en centre-ville où je crois on se porte très bien le fait qu'il y a encore des hôtels qui continuent à fonctionner et qu'ils ne partent pas tous en périphérie. Et si on veut que des bâtiments comme ceux-là, que ce soit des bureaux, etc., continuent à apporter cette diversité dans l'occupation du bâti ancien, Il faut aussi que ces bâtiments-là, ils évoluent et qu'ils soient en mesure de proposer à une clientèle qui tourne, etc., un niveau de confort, etc., que l'on peut retrouver ailleurs. Je crois que c'est l'objectif, c'est bien de faire en sorte qu'il n'y ait pas un décalage de confort qui amènerait à une désaffection de ce bâti. Enfin, moi, c'est...
Si je peux me permettre, en complément, en fait, ce que j'ai vu derrière la tête lorsque je vous ai fait cette première réflexion, c'est en réalité sur les normes nationales qui peuvent poser un certain nombre de difficultés. Est-ce que la gestion, l'amélioration du bâti ancien, est-ce que ce n'est pas au niveau, à l'échelon local, que les réglementations doivent être plus importantes, plus... contraignant, enfin, est-ce que les solutions ne sont pas à l'échelon local pour l'amélioration générale du bâti ancien ?
Moi, je crois que de la même manière que l'on a testé tout un tas de choses pendant 20 ans sur la pathologie du bâti ancien, du tuffeau, etc., je crois qu'il faut de la même manière être opérationnel, c'est-à-dire qu'il faut, rechercher des solutions, trouver des solutions pour que les notions de confort, mais dans toutes leurs caractéristiques, elles soient prises en compte. En fait, c'est bien ça, l'idée, c'est de... le fait qu'on mette en œuvre et qu'on soit là pour faire avancer des choses et que l'on ne garde pas certains locaux dans l'état où ils sont. Parce qu'on a quand même, on est quand même encore entouré de ruines quand on rentre dans certains appartements, même derrière de très belles façades. Donc l'idée, c'est de dire, mais bon, il y a un travail de fait, mais derrière, il faut quand même aller creuser et titiller un peu pour qu'on avance aussi et qu'on... la ville de Nantes offre des locaux avec des critères de confort qui soient à hauteur. Quoi,
oui, mais comme disait M. Salin, au lieu d'avoir des normes nationales, pourquoi pas des normes régionales, puisqu'il y a le climat qui joue, les matériaux utilisés dans telle région sont différents de ceux utilisés dans une autre région. Donc, dans notre région, il y a plus de tuffeaux que dans l'est de notre pays, il n'y en a pas. Donc, est-ce qu'il y aurait pas plutôt à affiner sur un plan local ces normes pour se dire qu'elles sont plus adaptées finalement à ce que l'on rencontre comme bâtiment ancien ?
Non, mais je suis assez d'accord avec ça, c'est vrai. Oui, on vous entend en parler, je suis très d'accord avec ça.
Les normes nationales, ça englobe énormément de régions qui ne se ressemblent pas, des bâtis anciens qui ne se ressemblent pas, où l'inertie ne sera pas la même.
On va rentrer sur des débats qui vont être un peu plus profonds.
Mais quand
je finis juste là-dessus. Ouais. On va finir sur le... Ben oui, parce que le problème, c'est qu'est-ce qu'on cherche, quoi. Si on cherche le confort, le bien-être et une qualité de vie, en effet, on commence à raffiner... Et le raffinement, c'est de passer par la diversité. Enfin, je vais vite, là, mais c'est exactement ce que je pense. Si le problème, c'est d'unifier un marché, parce que c'est des enjeux de développement, de vente de produits, etc., la variété est contre-indicative. Le seul moyen de... Ah oui, mais on vit ça, enfin, vous vivez ça tous comme moi, quoi. Non, mais je suis désolé. Donc ça, c'est vraiment des grandes orientations de débat, de façon de vivre. Tu as parlé aussi d'urbanisme, c'est évident. Après, dans la qualité du confort, le vent, le soleil, la présence du végétal, la façon dont on gère l'eau, voilà plein de choses. Et donc, on arrive en effet à être sur une autre logique, qui est une logique de la qualité de vie, qui est une logique subtile, complexe, dont nous avons tous hérité, parce que oui, je racontais ça, on en parlait, mais il y avait une émission récente où c'était une actrice américaine qui disait, bon, on lui demandait pourquoi elle venait en France. Elle disait, parce que vous avez une qualité de vie formidable. Mais attendez, mais on ne s'en rend plus compte. C'est-à-dire qu'on est en train de nous expliquer... moi, je mettrais qualité de vie au-delà du patrimoine, parce que le patrimoine, c'est un des facteurs. Mais, ou sauf si on prend patrimoine au sens de quoi avons-nous hérité et qu'entendons-nous garder de meilleur dans ce que nous avons hérité. Ce qui ne veut pas dire qu'on balance aussi plein de choses qui ne sont pas bonnes du tout. C'est pour ça que cette histoire du bâti ancien, moi, de plus en plus, ça m'agace un peu. Parce que ce n'est pas parce que c'est ancien que c'est bien. Et attention, parce que sinon, on va arriver aussi à conserver, parce qu'il y a aussi dans cette histoire du patrimoine une autre idée, c'est que nos vies changent tellement vite, que nos vies et nos villes changent tellement vite, que si on pouvait garder le décor inchangé de villes totalement bouleversées,
le bouleversement serait plus facile à porter. Alors là, je m'engage dans un terrain qui est un peu à l'arbitraire, mais je ne sais pas si vous m'avez compris.
Bon.
Mais si, c'est aussi ça. C'est-à-dire cette idée du paysage qui ne devrait pas changer, ce qui est un des risques potentiels de la conservation du patrimoine. Et on fige le paysage, et derrière, on adapte, mais sans changer le décor. Donc les vies ont été bouleversées, et on bouleverse aussi les conditions d'habitation, on met de la technique, on met des pompes, on met du chauffage, on met de la norme, on met des trucs, de façon à ce qu'on rende supportable la vie dans des conditions contemporaines, dans des décors qui ne sont pas faits pour ça. Quoi. Donc ça, c'est un autre truc. Mais moi, je serais plus dans ça, je dirais, quand c'est pas bien, allons-y tapons dedans, méfions-nous de vouloir figer les choses, utilisons la technique dans ce cas de meilleur, mais ne sous-estimons pas la qualité d'un certain nombre d'éléments qui nous ont été légués et qui font valeur.
En même temps, pour revenir aux hôtels dont vous parliez, monsieur, bon, à Nantes, on a des exemples d'hôtels qui sont en train de se restaurer, comme l'ancien palais de justice qui va devenir un hôtel. Bon, du Chessen, ça ne bouge pas, on aimerait bien savoir ce qui va se passer, mais on a quand même des bâtiments anciens comme ça qui mériteraient de repartir en hôtel. Bon, ben là, vous êtes obligé, donc, dans ces bâtiments-là, d'adapter des normes, bien sûr, d'actualité, avec quand même une structure ancienne aussi. Donc, comment ça se passe dans les hôtels comme ça qu'on restaure ? Vous adaptez vraiment comme si vous étiez dans un bâtiment moderne, ou vous faites en sorte quand même de penser que la structure elle est ancienne et que l'inertie n'est peut-être pas forcément la même, les matériaux ne sont pas les mêmes au niveau de la structure ?
La rénovation des hôtels tels qu'on peut le voir dans Nantes, enfin de petits hôtels, vous savez, aujourd'hui qui sont obligés de se mettre aux normes vis-à-vis de la sécurité incendie, vis-à-vis de l'accessibilité. Bon, c'est une préoccupation qu'ils ont tous, mais en même temps qui en met beaucoup en difficulté. Mais il n'empêche que, de la même manière que dans n'importe quel bâtiment, on peut apporter du confort au niveau phonique, on peut apporter du confort au niveau thermique, on peut apporter des économies dans la gestion de l'hôtel pour l'hôtelier parce qu'on aura proposé un certain nombre de solutions. La ventilation, c'est pas rien dans un hôtel. Je crois qu'il ne faut pas voir, en fait, et d'ailleurs, ça ne vous aura pas échappé qu'on a intitulé cette conférence plus alliée, enfin ce débat plus allié, une notion de confort. On n'a pas parlé de normes, en fait. Pour nous, il ne s'agit pas d'appliquer des normes bêtement. On est bien obligé de s'y tenir dans certains cas, évidemment. Mais c'est plutôt que de considérer la réhabilitation comme une contrainte, je crois que c'est une opportunité que l'on a de valoriser le patrimoine, c'est-à-dire de faire en sorte que l'offre dans le bâti ancien, elle ait largement autant, voire plus, d'attrait que dans du neuf. Donc, et c'est bien ça le sens de ce débat qui est lancé. Je crois que c'est plus une opportunité que l'on a de valoriser le bâti ancien, d'en tirer les parties, de tenir compte des contraintes que l'on a, du bâti nantais, du climat que l'on a là, etc., qui n'est pas le même, etc. Et c'est de tirer parti de tout ça, de telle sorte qu'on ait une offre, malgré tout, performante. Et je crois que là-dessus, il ne faut rien lâcher. Je l'ai dit au départ, il ne faut rien lâcher sur les notions de confort. Et il faut vraiment que l'on soit en mesure, sur cette ville, d'avoir des offres de qualité.
Merci beaucoup, René Jean. Nous arrivons au terme du temps que nous étions impartis, vers 30. Je retiens à nouveau quand même que finalement aux normes nationales d'incitation locale peut être une solution, et c'était le travail d'incitation, c'était aussi l'objet de la charte de qualité de notre naissance. C'est pour cela que je redis que ce débat peut se prolonger ou pas se prolonger dans le cadre de groupes de réflexion, de travail que nous allons mettre en place en parallèle à cette charte de qualité, justement pour évoquer ensemble, mettre en commun nos expériences, mettre en commun nos réflexions en vue d'aboutir, pourquoi pas, à ce type de brochure, justement incitant ou expliquant comment améliorer le confort dans le bâti ancien appliqué à Nantes. Je vous remercie de votre attention et je vous propose de prolonger le débat une première fois autour du verre juste après notre conférence, et donc nous mettrons bientôt en place ces groupes de travail. Merci.